Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous voici à nouveau avec Le Grand Mône, le roman de Alain Fournier, dont nous allons continuer aujourd'hui la lecture.
Regarde le bohémien! Regarde, je l'ai enfin reconnu.
Avant même d'avoir regardé, comme si depuis longtemps, inconsciemment, cette pensée couvait en moi et n'attendait que l'instant d'éclore, j'avais deviné. Debout auprès d'un quinquet à l'entrée de la roulotte, le jeune personnage inconnu avait défait son bandeau et jeté sur ses épaules une pèlerine. On voyait dans la lueur fumeuse, comme naguère à la lumière de la bougie dans la chambre du domaine, un très fin, très aquilin visage, sans moustache, pâle, les lèvres entrouvertes. Il feuilletait hâtivement une sorte de petit album rouge qui devait être un atlas de poche. Sauf une cicatrice qui lui barrait la tempe et disparaissait sous la masse des cheveux, c'était, tel que me l'avait décrit minutieusement le grand Mône, le fiancé du domaine inconnu. Il était évident qu'il avait ainsi relevé son bandage pour être reconnu de nous, mais à peine le grand Mône avait-il fait ce mouvement et poussé ce cri que le jeune homme rentrait dans la roulotte après nous avoir jeté un coup d'œil d'entente et nous avoir souri avec une vague tristesse, comme il souriait d'ordinaire.
Et l'autre, disait Mône avec fièvre, comment ne l'ai-je pas reconnu tout de suite? C'est le Pierrot de la fête là-bas.
Et il descendit les gradins pour aller vers lui. Mais déjà Ganache avait coupé toutes les communications avec la piste. Un à un, il éteignait les quatre quinquets du cirque et nous étions obligés de suivre la foule qui s'écoulait très lentement, canalisée entre les bancs parallèles dans l'ombre où nous piétinions d'impatience.
Dès qu'il fut dehors enfin, le grand Mône se précipita vers la roulotte, escalada le marchepied, frappa à la porte, mais tout était clos déjà. Déjà sans doute dans la voiture à rideaux comme dans celle du poney, de la chèvre et des oiseaux savants. Tout le monde était rentré et commençait à dormir.
Il nous fallut rejoindre la troupe des messieurs et des dames qui revenaient vers le cours supérieur par les rues obscures. Cette grande silhouette blanche que Mône avait vue le dernier soir de la fête filait entre les arbres. C'était Ganache qui avait recueilli le fiancé désespéré et s'était enfui avec lui. L'autre avait accepté cette existence sauvage, pleine de risques, de jeux et d'aventures. Il lui avait semblé recommencer son enfance. Franz de Galais nous avait jusqu'ici caché son nom. Et il avait faim d'ignorer le chemin du domaine par peur sans doute d'être forcé de rentrer chez ses parents. Mais pourquoi, ce soir-là, lui avait-il plu soudain de se faire connaître à nous et de nous laisser deviner la vérité tout entière? Que de projets le grand Mône ne fit-il pas, tandis que la troupe des spectateurs s'écoulait lentement à travers le bourg? Il décida que dès le lendemain matin, qui était un jeudi, il irait trouver Franz. Et tous les deux, ils partiraient pour là-bas. Quel voyage sur la route mouillée! Franz expliquerait tout, tout s'arrangerait, et la merveilleuse aventure allait reprendre là où elle s'était interrompue. Quant à moi, je marchais dans l'obscurité avec un gonflement de cœur indéfinissable. Tout se mêlait pour contribuer à ma joie, depuis le faible plaisir que donnait l'attente du jeudi, jusqu'à la très grande découverte que nous venions de faire, jusqu'à la très grande chance qui nous était échue. Et je me souviens que dans ma soudaine générosité de cœur, je m'approchais de la plus laide des filles du notaire à qui l'on m'imposait parfois le supplice d'offrir mon bras, et, spontanément, je lui donnai la main. Amer souvenir. Vains espoirs écrasés.
Le lendemain, vers 8 heures, lorsque nous débouchâmes tous les deux sur la place de l'église avec nos souliers bien cirés, nos plaques de ceinturon bien astiquées et nos casquettes neuves, Mône, qui jusque-là se retenait de sourire en me regardant, poussa un cri et s'élança vers la place vide. Sur l'emplacement de la baraque et des voitures, il n'y avait plus qu'un pot cassé et des chiffons. Les bohémiens étaient partis. Un petit vent qui nous parut glacé soufflait. Il me semblait qu'à chaque pas nous allions buter sur le seuil caillouteux et dur de la place et que nous allions tomber. Moon, affolé, fit 2 fois le mouvement de s'élancer d'abord sur la route du vieux Nançay, puis sur la route de Saint-Loup-des-Bois. Il mit sa main au-dessus de ses yeux, espérant un instant que nos gens venaient seulement de partir. Mais que faire ? 10 traces de voitures s'embrouillaient sur la place, puis s'effaçaient sur la route dure. Il fallut rester là, inerte. Et tandis que nous revenions à travers le village où la matinée du jeudi commençait, 4 gendarmes à cheval, avertis par des louches la veille au soir, débouchèrent au galop sur la place et s'éparpillèrent à travers les rues pour garder toutes les issues comme des dragons qui font la reconnaissance d'un village. Mais il était trop tard. Ganache, le voleur de poulet, avait fui avec son compagnon. Les gendarmes ne retrouvèrent personne, ni lui, ni ceux-là qui chargeaient dans des voitures les chapons qu'ils étranglaient. Prévenu à temps par le mot imprudent de Jasmin, Franz avait dû comprendre soudain de quel métier son compagnon et lui vivaient, quand la caisse de la roulotte était vide. Plein de honte et de fureur, il avait arrêté aussitôt un itinéraire et décidé de prendre du champ avant l'arrivée des gendarmes. Mais ne craignant plus désormais qu'on tentât de le ramener au domaine de son père, il avait voulu se montrer à nous sans bandage avant de disparaître. Un seul point resta toujours obscur. Comment Ganache avait-il pu à la fois dévaliser les basses-cours et quérir la bonne sœur pour la fièvre de son ami ? Mais n'était-ce pas là toute l'histoire du pauvre diable ? Voleur d'un côté, bonne créature de l'autre. Comme nous rentrions, le soleil dissipait la légère brume du matin. Les ménagères sur le seuil des maisons secouaient leurs tapis ou bavardaient. Et dans les champs et les bois, aux portes du bourg, commençait la plus radieuse matinée de printemps qui soit restée dans ma mémoire. Tous les grands élèves du cours devait arriver vers 8 heures ce jeudi-là pour préparer durant la matinée les uns le certificat d'études supérieures, les autres le concours de l'école normale. Lorsque nous arrivâmes tous les deux, Mône, plein d'un regret et d'une agitation qui ne lui permettait pas de rester immobile, moi, très abattu, l'école était vide. Un rayon de frais soleil glissait sur la poussière d'un banc vermoulu et sur le vernis écaillé d'un planisphère. Comment rester là, devant un livre, à ruminer notre déception, tandis que tout nous appelait au dehors, les poursuites des oiseaux dans les branches près des fenêtres, la fuite des autres élèves vers les prés et les bois, et surtout le fiévreux désir d'essayer au plus vite l'itinéraire incomplet vérifié par le bohémien. Dernière ressource de notre sac presque vide, dernière clé du trousseau après avoir essayé toutes les autres. Cela était au-dessus de nos forces. Moon marchait de long en large, allait auprès des fenêtres, regardait dans le jardin, puis revenait et regardait vers le bourg comme s'il eût attendu quelqu'un qui ne viendrait certainement pas. « J'ai l'idée, me dit-il enfin, j'ai l'idée que ce n'est peut-être pas aussi loin que nous l'imaginons. » Franz a supprimé sur mon plan toute une portion de la route que j'avais indiquée. Cela veut dire peut-être que la jument a fait pendant mon sommeil un long détour inutile.
J'étais à moitié assis sur le coin d'une grande table, un pied par terre, l'autre ballant, l'air découragé et désœuvré, la tête basse. « Pourtant, dis-je, au retour, dans la berline, ton voyage a duré toute la nuit. »«
Nous étions partis à minuit, » répondit-il vivement. « On m'a déposé à 4 heures du matin à environ 6 kilomètres à l'ouest de Sainte-Agathe, tandis que j'étais parti par la route de la gare à l'est. »
Il faut donc compter ces 6 kilomètres en moins entre Sainte-Agathe et le pays perdu. Vraiment, il me semble qu'en sortant du bois des communaux, on ne doit pas être à plus de 2 lieues de ce que nous cherchons.
Ce sont précisément ces 2 lieux-là qui manquent sur ta carte,
c'est vrai.
Et la sortie du bois est bien à 1,5 lieue d'ici, mais pour un bon marcheur, cela peut se faire en une matinée.
À cet instant, Moucheboeuf arriva. Il avait une tendance irritante à se faire passer pour bon élève, non pas en travaillant mieux que les autres, mais en se signalant dans des circonstances comme celle-ci.
« Je savais bien, dit-il triomphant, ne trouvez que vous deux, tous les autres sont partis pour le bois des communaux. En tête, Jasmin Delouche, qui connaît les nids ?»
Et voulant faire le bon apôtre, il commença à raconter tout ce qu'ils avaient dit pour narguer le cours, M. Sorel et nous, en décidant cette expédition.
« S'ils sont au bois, je les verrai sans doute en passant, dit Mône, car je m'en vais aussi. Je serai de retour vers midi et demi. »
Moucheboeuf resta ébahi. « Ne viens-tu pas ?» me demanda Augustin, s'arrêtant une seconde sur le seuil de la porte entrouverte, et qui fit entrer dans la pièce grise, en une bouffée d'air tiédi par le soleil, un fouillis de cris, d'appels, de pépiments, le bruit d'un seau sur la margelle du puits et le claquement d'un fouet au loin.
« Non, dis-je,
bien que la tentation fût forte.
Je ne puis pas,
à cause de M. Sorel, mais hâte-toi, je t'attendrai avec impatience. » Il fit un geste vague et partit très vite, plein d'espoir.
Lorsque M. Sorel arriva vers 10 heures, il avait quitté sa veste d'alpaga noire, revêtu un paletot de pêcheur aux vastes poches boutonnées, un chapeau de paille et de courtes jambières vernies pour serrer le bas de son pantalon.
Je crois bien qu'il ne fut guère surpris de ne trouver personne.
Il ne voulut pas entendre Moucheboeuf qui lui répéta 3 fois ce que les gars avaient dit. « S'il a besoin de nous, qu'il vienne donc nous chercher !»
Et il commanda
« Serrez vos affaires, prenez vos casquettes et nous allons les dénicher à notre tour.
Pourras-tu marcher jusque-là, François ?»
J'ai affirmé que oui, et nous partîmes.
Il fut entendu que Moucheboeuf conduirait M. Sorel et lui servirait d'appôt, c'est-à-dire que connaissant les futaies où se trouvaient les dénicheurs, il devait de temps à autre crier à toute voix « Hop, hola, Girauda, Delouche, où êtes-vous ? Y en a-t-il ? En avez-vous trouvé ?»
Quant à moi, je fus chargé à mon vif plaisir de suivre la lisière est du bois pour le cas où des écoliers fugitifs chercheraient à s'échapper de ce côté.
Or, dans le plan rectifié par le bohémien que nous avions maintes fois étudié avec Moon, il semblait qu'un chemin à un trait, un chemin de terre, partit de cette lisière du bois pour aller dans la direction du domaine. Si j'allais le découvrir ce matin, je commençais à me persuader qu'avant midi, je me trouverais sur le chemin du manoir perdu.
Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, l'adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'elle avait, pauvrette, comme coussin. Le chat, la prenant pour sa mère, se mit à téter tout de go. Ému Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde et le lendemain. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, Tous les gars du village étaient là 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 là, étaient là 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Maître d'école et ses potaches, le maire, le bedeau, le bougnat, négligeaient carrément leurs tâches pour voir ça. Le facteur d'ordinaire s'y preste pour voir ça, ne distribuait plus les lettres que personne au reste n'aurait lues. Pour voir ça, Dieu le leur pardonne, les enfants de cœur au milieu du saint sacrifice abandonnent le saint lieu. Les gendarmes, même les gendarmes qui sont par nature si ballots, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Mais les autres femmes de la commune, privées de leurs époux, de leurs galants, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivres de colère, elles s'armèrent de bâtons, et farouches, elles immolèrent le chaton. La bergère, après bien des larmes, pour se consoler, prit un mari, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là, 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 étaient là, 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 étaient là, 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 là.
Lectures en liberté. Denis Flageol.
Et nous voici à nouveau avec la suite du roman de Alain Fournier, Le Grand Mône, après ce moment musical. La merveilleuse promenade. Dès que nous eûmes passé le glacis et contourné le moulin, je quittai des yeux mes deux compagnons, M. Sorel, dont on eût dit qu'il partait en guerre. Je crois bien qu'il avait mis dans sa poche un vieux pistolet, et ce traître de Moucheboeuf. Prenant un chemin de traverse, j'arrivai bientôt à la lisière du bois. Seul, à travers la campagne, pour la première fois de ma vie, comme une patrouille que son caporal a perdue. Me voici, j'imagine, près de ce bonheur mystérieux que Mône a entrevu un jour. Toute la matinée est à moi pour explorer la lisière du bois, l'endroit le plus frais et le plus caché du pays, tandis que mon grand frère aussi est parti à la découverte. C'est comme un ancien lit de ruisseau. Je passe sous les basses branches d'arbres dont je ne sais pas le nom, mais qui doivent être des aunes. J'ai sauté tout à l'heure un échalier au bout de la sente, et je me suis trouvé dans cette grande voie d'herbe verte qui coule sous les feuilles, foulant par endroits les orties, écrasant les hautes valérianes. Parfois mon pied se pose durant quelques pas sur un banc de sable fin, et dans le silence j'entends un oiseau. Je m'imagine que c'est un rossignol, mais sans doute je me trompe puisqu'il ne chante que le soir. Un oiseau qui répète obstinément la même phrase. Voix de la matinée, paroles dites sous l'ombrage, invitation délicieuse au voyage entre les zones. Invisible, entêté, il semble m'accompagner sous la feuille. Pour la première fois, me voilà moi aussi sur le chemin de l'aventure. Ce ne sont plus des coquilles abandonnées par les eaux que je cherche sous la direction de M. Sorel, ni des orchis que le maître d'école ne connaisse pas, ni même, comme cela nous arrivait souvent dans le champ du Père Martin, cette fontaine profonde et tarie couverte d'un grillage enfouie sous tant d'herbes folles qu'il fallait chaque fois plus de temps pour la retrouver. Je cherche quelque chose de plus mystérieux encore. C'est le passage dont il est question dans les livres. L'ancien chemin obstrué. Celui dont le prince, harassé de fatigue, n'a pu trouver l'entrée. Cela se découvre à l'heure la plus perdue de la matinée, quand on a depuis longtemps oublié qu'il va être 11 heures, midi. Et soudain, en écartant dans le feuillage profond les branches, avec ce geste hésitant des mains à hauteur du visage, inégalement écarté, on l'aperçoit comme une longue avenue sombre, dont la sortie est un rond de lumière, tout petit. Mais tandis que j'espère et m'enivre ainsi, voici que brusquement je débouche dans une sorte de clairière qui se trouve être tout simplement un pré. Je suis arrivé sans y penser à l'extrémité des communaux, que j'avais toujours imaginé infiniment loin. Et voici, à ma droite, entre des piles de bois, toute bourdonnante dans l'ombre, la maison du garde. Deux paires de bas sèchent sur l'appui de la fenêtre. Les années passées, lorsque nous arrivions à l'entrée du bois, nous disions toujours en montrant un point de lumière tout au bout de l'immense allée noire « C'est là-bas, la maison du garde, la maison de Baladier !» Mais jamais nous n'avons poussé jusque-là. Nous entendions dire quelquefois, comme s'il se fût agi d'une expédition extraordinaire, « Il a été jusqu'à la maison du garde !» Cette fois, je suis allé jusqu'à la maison de Baladier et je n'ai rien trouvé. Je commençais à souffrir de ma jambe fatiguée et de la chaleur que je n'avais pas sentie jusque-là. Je craignais de faire tout seul le chemin du retour lorsque j'entendis, près de moi, la peau de M. Serel, la voix de Moucheboeuf, puis d'autres voix qui m'appelaient. Il y avait là une troupe de 6 grands gamins où seul le traître Moucheboeuf avait l'air triomphant. C'était Girauda, Auberger, Delage et d'autres. Grâce à la peau, on avait pris les uns grimpés dans un merisier isolé au milieu d'une clairière, les autres en train de dénicher des pics verts. Girauda, le nigaud aux yeux bouffis, à la blouse crasseuse, avait caché les petits dans son estomac entre sa chemise et sa peau. Deux de leurs compagnons s'étaient enfuis à l'approche de M. Serel. Ce devait être Delouche et le petit Coffin. Ils avaient d'abord répondu par des plaisanteries à l'adresse de « Mouchevache » que répétaient les échos des bois, et celui-ci, maladroitement se croyant sûr de son affaire, avait répondu vexé « Vous n'avez qu'à descendre, vous savez, M. Serel est là !» Alors tout s'était tu subitement. Ça avait été une fuite silencieuse à travers le bois, et comme il le connaissait à fond, il ne fallait pas songer à les rejoindre. On ne savait pas non plus où le grand mot n'était passé. On n'avait pas entendu sa voix. Et l'on dut renoncer à poursuivre les recherches. Il était plus de midi lorsque nous reprîmes la route de Sainte-Agathe, lentement, la tête basse, fatigué, terreux. À la sortie du bois, lorsque nous eûmes frotté et secoué la boue de nos souliers sur la route sèche, le soleil commença de frapper dur. Déjà ce n'était plus ce matin de printemps si frais et si luisant. Les bruits de l'après-midi avaient commencé. De loin en loin, un coq criait. Cri désolé dans les fermes désertes aux alentours de la route. À la descente du glacis, nous nous arrêtâmes un instant pour causer avec des ouvriers des champs qui avaient repris leur travail après le déjeuner. Ils étaient accoudés à la barrière et M. Serel leur disait « De fameux galopins, tenez, regardez Girauda. Il a mis les oisillons dans sa chemise. Ils ont fait là-dedans ce qu'ils ont voulu. Ben, c'est du propre. » Il me semblait que c'était de ma débâcle aussi que les ouvriers riaient. Il riait en hochant la tête. Mais il ne donnait pas tout à fait tort au jeune gars qu'il connaissait bien. Ils nous confièrent même, lorsque M. Serret le reprit la tête de la colonne,
il y en a eu un autre qui est passé, un grand, vous savez bien. Il a dû rencontrer en revenant la voiture des Granges, et on l'a fait monter. Il est descendu plein de terre, tout déchiré, ici, à l'entrée du chemin des Granges.
Nous lui avons dit que nous vous avions vu passer ce matin, mais que vous n'étiez pas de retour encore, et il a continué tout doucement sa route vers Sainte-Agathe. En effet, assis sur une pile du pont des Glacis, nous attendait le grand Mône, l'air brisé de fatigue. Aux questions de M. Serret, il répondit que lui aussi était parti à la recherche des écoliers buissonniers, et à celle que je lui posais tout bas, il dit seulement en hochant la tête avec découragement « Non ». Rien, rien qui ressemble à ça.
Après déjeuner dans la classe fermée, noire et vide, au milieu du pays radieux, il s'assit à l'une des grandes tables, et la tête dans les bras, il dormit longtemps, d'un sommeil triste et lourd. Vers le soir, après un long instant de réflexion, comme s'il venait de prendre une décision importante, il écrivit une lettre à sa mère. Et c'est tout ce que je me rappelle de cette morne fin d'un grand jour de défaite.
Nous avions escompté trop tôt la venue du printemps. Le lundi soir, nous voulûmes faire nos devoirs, aussitôt après 4 heures, comme en plein été. Et pour y voir plus clair, nous sortîmes 2 grandes tables dans la cour.
Mais le temps s'assombrit tout de suite. Une goutte de pluie tomba sur un cahier. Nous rentrâmes en hâte. Et de la grande salle obscurcie par des larges fenêtres, nous regardions silencieusement dans le ciel gris la déroute des nuages.
Alors Mône, qui regardait comme nous, la main sur une poignée de croisée, ne put s'empêcher de dire, comme s'il eût été fâché de sentir monter en lui tant de regrets,
« Ah ! Il filait bien autrement que cela les nuages, lorsque j'étais sur la route, dans la voiture à la Belle Étoile. »
Sur quelle route ? Demanda Jasmin.
Mais Mône ne répondit pas.
Moi, dis-je, pour faire diversion, j'aurais aimé voyager comme cela en voiture, par la pluie battante, abrité sous un grand parapluie.
Et lire tout le long du chemin comme dans une maison, ajouta un autre.
Il ne pleuvait pas. « Et je n'avais pas envie de lire, » répondit Mône. « Je ne pensais qu'à regarder le pays. »
Mais lorsque Giroda, à son tour, demanda à quel pays il s'agissait, Mône, de nouveau, resta muet.
Et Jasmin dit, « Je sais, toujours la fameuse aventure !»
Il avait dit ces mots d'un ton conciliant et important, comme s'il eût été lui-même un peu dans le secret. Ce fut peine perdue. Ses avances lui restèrent pour compte. Et comme la nuit tombait, chacun s'enfuit au galop, la blouse relevée sur la tête, sous la froide averse. Jusqu'au jeudi suivant, le temps resta à la pluie. Et ce jeudi-là fut plus triste encore que le précédent. Toute la campagne était baignée dans une sorte de brume glacée, comme au plus mauvais jour de l'hiver.
Milly, trompée par le beau soleil de l'autre semaine, avait fait la lessive. Mais il ne fallait pas songer à mettre sécher le linge sur les haies du jardin, ni même sur les cordes dans le grenier, tant l'air était humide et froid.
En discutant avec M. Serret, il lui vint l'idée d'étendre sa lessive dans les classes, puisque c'était jeudi, et de chauffer le poêle à blanc. Pour économiser les feux de la cuisine et de la salle à manger, on ferait cuire les repas sur le poêle et nous nous tiendrions toute la journée dans la grande salle du cours. Au premier instant, j'étais si jeune encore, je considérais cette nouveauté comme une fête.
Et nous avons terminé pour ce soir la lecture du roman de Alain Fournier, Le Grand Mône, que nous reprendrons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.